Évangile selon Luc, chapitre 9. Envoi des 12 apôtres, versets 1 à 9.
Lecture de la parole. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Et il leur dit, « Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas chacun de tunique, et dans quelque maison que vous entriez, là demeurez, et de là partez. Et tous ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville-là, secouez même la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Et partant, il parcourait tous les villages, évangélisant et guérissant partout. Et Hérode le tétrarque ouït parler de toutes les choses qui étaient faites par lui, et il était en perplexité, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, et quelques-uns qu'Élie était apparu, et d'autres que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode dit, « Moi, j'ai fait décapiter Jean, mais qui est celui-ci de qui j'entends dire de telles choses ? » Et il cherchait à le voir.
Lecture de l'étude. Nous avons vu, au chapitre 6, que Jésus s'était choisi 12 disciples qu'il nomma apôtres, c'est-à-dire envoyés. Restés jusqu'ici avec leur maître, Jésus les rassemble pour les envoyer prêcher le royaume de Dieu. Il leur donne autorité sur les démons et le pouvoir de guérir malades et infirmes. Lors même que Jésus voit son rejet s'accentuer de jour en jour, il veut employer tous les moyens possibles pour faire connaître à son peuple ce qu'il venait lui apporter. Il multiplie ses moyens en conférant aux apôtres la puissance en délivrance dont il disposait lui-même et qui aurait dû amener les Juifs à croire en lui. L'amour ne se lasse pas tant que l'heure du jugement n'a pas sonné. Jésus dit aux disciples de ne rien prendre pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni vêtements de rechange. Pendant que le Seigneur se trouvait là, ils jouissaient de sa protection, car il les envoyait à un peuple censé le recevoir. Une fois son rejet accompli, tout changerait pour eux, comme nous le lisons au chapitre 22, versets 35 à 38.
Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils dirent, « De rien. » Il leur dit donc, « Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit soit accompli en moi, et il a été compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. » Et ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « C'est assez. »
Où ils étaient reçus, ils devaient demeurer, et sur ceux qui ne les recevraient pas, ils prononçaient un jugement en secouant contre la ville la poussière de leurs pieds. Et partant, ils parcouraient tous les villages, évangélisant et guérissant partout. Verset 6. Quand il entendit parler de Jésus, Hérode fut en perplexité, car quelques-uns disaient que Jean le baptiseur, ou bien l'un des anciens prophètes, était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu. Le malheureux Hérode ne pensait ni à Élie ni au prophète. Sa conscience, chargée du crime qu'il avait commis en faisant décapiter Jean, évoquait ce dernier dont il aurait redouté l'apparition. Ah! La conscience, quoi qu'on cherche à l'endormir, elle parle toujours. Aux aguets pour percevoir le moindre bruit qui se fait entendre, tout ce qu'elle entend l'accuse, lors même qu'elle refuse d'en convenir. Laissons-la parler, lecteur. Écoutons ce qu'elle peut avoir à nous dire, et si elle nous dit quelque chose, confessons-le à Dieu, au lieu de chercher à étouffer sa voix ou à nous excuser. Ce sera le seul moyen de la décharger et de retrouver le repos et le bonheur perdu par notre faute. Qu'il s'agisse de l'inconverti ou des fautes qu'hélas un croyant peut commettre, le moyen d'obtenir délivrance et pardon est identique, la confession. Mais pour que la conscience accomplisse sûrement son service, elle doit être éclairée par la parole de Dieu, qui seule lui donne une appréciation saine du bien et du mal. Chez Hérode, on voit simplement une conscience mal à l'aise. Il se repent si peu de son crime que, peu après, il devient l'ami de son ennemi Pilate lorsqu'il veut mettre à mort Jésus. Le retour des apôtres, versets 10 à 17.
Lecture de la parole. Et les apôtres, étant de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'écart, dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaïda. Et les foules, l'ayant su, le suivirent. Et les ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Et le jour commença à baisser. Et les douze, s'approchant, lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes d'alentour, et s'y logent et trouvent des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit, « Vous, donnez-leur à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rang de 50 chacun. » Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit et les rompit. Et il les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés, et de ce qui leur était resté de morceaux, on ramassa 12 paniers.
Lecture de l'étude. À leur retour, les apôtres vinrent vers Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et il les conduisit dans un lieu désert, à l'écart, près de Bethsaïda. Après le service, il est bon de se retirer, non seulement pour se reposer physiquement, mais pour avoir affaire avec Dieu sans distraction, car, comme Marthe, on peut se laisser absorber par son service. Cependant, il n'est guère possible de jouir longtemps de la tranquillité dans un monde où les besoins de toute nature se font sentir, surtout durant le temps où l'amour de Dieu est en activité. De grandes foules avaient suivi Jésus et ses disciples, et, lisons-nous, les ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison, verset 11. Si Jésus s'était borné à guérir au milieu des Juifs, il l'aurait reçu, mais ses actes de puissance en bonté, il les accompagnait de la prédication du royaume de Dieu, c'est-à-dire d'un ordre de choses où tout doit être en harmonie avec les caractères de Dieu. Or, ce que l'homme est et ce qu'il fait est tellement opposé à ses caractères que cette prédication ne lui convainc pas, malgré le déploiement de bonté qui l'a caractérisé. C'est pourquoi Jésus fut rejeté. Nous aussi, nous avons à faire le bien, à soulager les misères au milieu d'un monde exposé à tant de souffrances. Mais n'oublions pas qu'en cherchant à secourir ceux qui sont dans la peine, il faut imiter le modèle parfait en présentant aussi la parole de Dieu. Le jour baissait, le lieu était désert, la foule nombreuse et sans ressources. Voyant cela, les disciples conseillèrent à Jésus de renvoyer ces gens qui, déjà, étaient venus déranger leur repos et leur intimité avec lui, afin qu'ils allassent dans les villages d'alentour pour s'y loger et trouver des vivres. Selon l'homme, le conseil des disciples paraissait sage et même bienveillant, mais au fond, il était dicté par la recherche de leurs aises. Ils pensaient surtout à eux, ce qui ne nous arrive que trop souvent, même quand nous semblons désintéressés. Il en allait tout autrement avec Jésus, dont le cœur débordant d'amour ne pensait jamais à lui et poursuivait avec patience son œuvre de bonté envers tous. Pour Jésus, les ressources n'existaient pas dans la contrée environnante, mais en lui-même. Les disciples ne connaissaient pas davantage la gloire de sa personne en rapport avec les besoins de la foule qu'ils ne l'avaient connue dans leur danger au milieu de l'orage. Jésus veut non seulement pourvoir aux besoins des foules, mais il veut que les disciples y pourvoient en disposant de sa puissance. « Vous, donnez-leur à manger, leur dit-il. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ 5000 hommes. Verset 13. Ils regardaient toujours ailleurs qu'à Jésus, tandis que la foi ne regarde qu'à lui. 5 pains, c'est quelque chose de visible, mais insuffisant. Si les choses visibles nous suffisaient, nous n'aurions pas besoin de foi. Nous ressemblons beaucoup aux disciples dans nos difficultés, petites ou grandes. Nous commençons le plus souvent par compter sur les ressources visibles au lieu d'aller à Jésus et de nous attendre à lui qui peut se servir de ce qui est visible et le multiplier. Jésus dit aux 12, « Faites-les asseoir par rang de 50 chacun. » Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit et les rompit. Et il les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et de ce qui leur était resté de morceaux, on ramassa 12 paniers, versets 15 à 17. Jésus nous apprend qu'en lui remettant le peu que nous avons, il le bénit pour qu'il suffise et même qu'il y en ait de reste. C'est lui qui pourvoit aux besoins, mais en se servant de nous et de ce que nous avons. Ainsi nous pouvons accomplir ce que Dieu place devant nous, lors même que nos ressources paraissent insuffisantes, qu'il s'agisse de ressources spirituelles ou matérielles, et nous ferons l'expérience que non seulement il y a suffisamment, mais de reste. Jésus annonce sa mort, versets 18 à 27.
Lecture de la parole. Et il arriva, comme il priait à l'écart, que ses disciples étaient avec lui. Et il les interrogea, disant, « Qui disent les foules que je suis ?» Et répondant, ils dirent « Jean le baptiseur », et d'autres « Élie », et d'autres « Que l'un des anciens prophètes est ressuscité ». Et il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondant dit « Le Christ de Dieu ». Et s'adressant à eux avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne, disant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même ? car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous dis, en vérité, que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu.
Lecture de l'étude. Si Jésus se servait de sa puissance pour accomplir les œuvres que son Père lui avait données à faire, il demeurait toujours l'homme dépendant de son Dieu. Dans cet évangile, où son caractère de Fils de l'homme est pleinement manifesté, nous le voyons en prière 7 fois, dont 2 dans ce chapitre, versets 18 et 28. L'Esprit de Dieu signale ces faits merveilleux pour nous apprendre que non seulement la prière caractérisait la vie habituelle de Jésus, mais que la prière précédait tout, spécialement les circonstances importantes de sa vie. Chapitre 5, versets 16 et 11, verset 1.
Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait, et comme il était en prière dans un certain lieu.
Avant son entrée dans son ministère public, chapitre 3, verset 21.
Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit.
Avant l'appel de ses apôtres, chapitre 6, verset 12.
Or il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Au verset 18 de notre chapitre, avant de parler au sien du changement de dispensation résultant de son rejet, au verset 28, avant la transfiguration. Au chapitre 22, versets 42 et 44, en Gethsémané.
Et s'étant mis à genoux, il priait disant, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre.
Nous apprenons ainsi que la prière doit être habituelle dans toute notre vie. Dans les circonstances importantes, difficiles et douloureuses tout particulièrement, il faut la présenter avec ferveur. Et il arriva, comme il priait à l'écart, que ses disciples étaient avec lui. Et il les interrogea, disant, « Qui disent les foules que je suis ?» Et répondant, ils dirent, « Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres que l'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Versets 18 à 20. Jésus allait parler de sa mort qui amènerait la rupture de ses relations avec Israël, comme peuple selon la chair, puisque ce peuple le rejetait. Chacun avait une opinion particulière de sa personne, mais aucun ne le reconnaissait comme le Christ promis. Jésus demande donc à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond spontanément, « Le Christ de Dieu. » Ils avaient donc la foi réelle en lui, comme le Christ que Dieu avait promis. Celui qui devait régner sur son peuple, selon que les prophètes l'avaient annoncé. Quant au peuple, inutile de lui en parler davantage. Jésus défend aux disciples de le faire. Le temps était passé. Il devait mourir. Il leur dit donc, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le troisième jour. » Verset 22. Quel changement pour Jésus et les siens. Au lieu de la gloire, ce sont les souffrances et la mort, mais aussi la résurrection. Jésus veut amener les disciples à comprendre ce changement, très pénible pour eux, et dans lequel ils entrèrent difficilement, même pas du tout avant la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même ? Versets 23 à 25. Au lieu de suivre un Christ glorieux, acclamé par tous comme il aurait dû l'être, il faut suivre un Christ rejeté, méprisé, mis à mort. Cette mort a placé ce monde et tout ce qui en fait partie sous le jugement de Dieu. On doit donc abandonner la vie que l'on mène en rapport avec ce monde pour obtenir la vie éternelle. En effet, si la mort de Jésus mettait fin au monde et rendait impossible l'établissement du royaume, elle ouvrait le chemin du ciel et donnait la vie éternelle. Pour l'obtenir, il fallait renoncer à tout, à soi-même, à ce moi auquel se rapporte tout ici-bas, et suivre Christ en portant sa croix, c'est-à-dire en réalisant la mort au monde. L'apôtre Paul dit « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. » Galates 6, verset 14. Celui qui veut ménager sa vie d'homme dans ce monde où Jésus a souffert et a trouvé la mort, monde qui est sous le jugement de Dieu, perdra sa vie pour l'éternité, car il s'agit de l'éternité déjà maintenant. Il aura en partage la mort éternelle. Il y a donc à choisir entre la mort dans ce monde et la vie dans l'éternité, ou la vie du monde et la mort éternelle. Question très solennelle. Car que profiterait-il à un homme s'il pouvait gagner le monde entier? Les milliardaires que l'on estime si riches n'en possèdent qu'une bien minime partie, s'il se perdait lui-même. Lorsque ce monde passera avec ce qu'il contient, tous les hommes, depuis Adam jusqu'au dernier qui naîtra, existeront toujours et subiront les conséquences de leur court passage sur la terre. Ceux qui auront suivi Christ en croyant en lui et en souffrant avec lui vivront avec lui dans la gloire. Ceux qui auront voulu jouir sans lui des plaisirs du monde souffriront sans lui dans les ténèbres de dehors éternellement. Vérité très solennelle, propres à faire réfléchir ceux qui jettent encore un regard d'envie sur le monde et négligent ainsi leurs intérêts éternels. Le Christ rejeté prend le caractère de Fils de l'homme, titre plus grand que celui de Messie. Ses droits et son pouvoir s'étendent à l'univers entier. C'est comme tel qu'il apparaîtra au monde et aux Juifs. Dans ce jour-là, il reconnaîtra publiquement ceux qui l'auront suivi lors de son rejet, et il aura honte de ceux qui auront eu honte de lui et de ses paroles alors qu'il était méprisé. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Verset 26. Il importe de juger des circonstances présentes à la lumière que donne la parole sur l'avenir, afin de ne pas nous laisser séduire par l'apparence trompeuse des choses visibles qui ne sont que pour un temps. Afin de fortifier la foi de ceux qui croyaient en lui, Jésus leur dit « De ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. » Verset 27. Jésus voulait qu'au travers de leur chemin de souffrance et de mort, les disciples eussent leur foi fortifiée par une manifestation glorieuse du royaume de Dieu, dont l'établissement sur la terre ne pouvait s'accomplir alors. C'est ce qui arriva lors de la scène de la transfiguration dont Pierre parla plus tard en disant « Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. » Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » De Pierre 1, versets 16 et 17. La Transfiguration, versets 28 à 36.
Lecture de la parole. Et il arriva, environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix, venant de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul, et ils se turent, et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
Lecture de l'étude. 8 jours environ après avoir prononcé les paroles rapportées au verset 27, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. Comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Versets 29 à 31. Après avoir parlé à ses disciples de sa mort, il s'en entretient avec Moïse et Élie, glorifiés comme lui. C'était la chose importante et nécessaire à ce moment-là de l'histoire du monde et du peuple juif. Moïse avait donné la loi, bientôt violée et mise de côté par le peuple. Les prophètes, représentés par Élie, avaient constamment cherché à ramener le peuple à l'Éternel, tout en proclamant les jugements, conséquences de son impiété. Tout demeura inutile. Les prophètes annoncèrent aussi le Messie. Il vint, mais ne fut pas reçu. Que faire ? Dieu restera-t-il impuissant en présence de la méchanceté de l'homme ? Oui, impuissant s'il veut employer l'homme rebelle et perdu. Il ne le pourra pas. L'épreuve en a été faite. Mais pour Dieu, tout reposait sur la mort de son fils bien-aimé, qui subit à la croix le jugement mérité par l'homme. Dès lors, la justice divine étant satisfaite, Dieu fut libre d'agir envers tous selon ses pensées de grâce. Il n'a plus à compter avec l'homme naturel qui prend fin à la croix, mais avec Jésus qui l'a glorifié par sa mort et auquel il doit en récompense le salut du croyant et toute gloire dans le ciel et sur la terre, gloire dans laquelle il introduira ceux qui ont cru. En présence de cette scène, les 3 disciples étaient accablés de sommeil. En se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici et faisons 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Verset 33. Il eût été bon, sans doute, de demeurer dans la proximité de ces personnages glorieux. Mais dans l'état où se trouvait le peuple juif et le monde, ce n'était pas possible. Il fallait pour cela un état de choses qui y correspondit. Il fallait l'œuvre de la croix afin que puissent venir les temps du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire le règne glorieux du Fils de l'homme. Acte 3, verset 21.
Lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
Cette apparition glorieuse était un échantillon du royaume de Dieu en gloire, auquel participeront tous les saints célestes et terrestres, savoir tous ceux qui seront au ciel à ce moment-là et tous ceux qui seront sur la terre. Moïse et Élie représentent les premiers et les trois disciples les derniers. Moïse figure les ressuscités et Élie les transmués, car Moïse passa par la mort, tandis qu'Élie fut enlevé au ciel sans voir la mort. Le spectacle de cette gloire devait fortifier la foi des disciples et de tous les croyants et les encourager à suivre Christ en portant leur croix jusqu'au moment où ils auraient leur part avec lui dans cette même gloire. Ils apprirent plus encore dans cette scène merveilleuse. Comme ils disaient ces choses, une nuée vint et les couvrit, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Versets 34 à 35. Cette nuée, signe de la présence de Jéhovah au milieu de son peuple, couvrit aussi le tabernacle dans le désert lorsqu'il fut achevé et le remplit de la gloire de l'Éternel. Exode 40, versets 34 à 35.
Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle.
De même que le temple de Salomon après sa dédicace, 2 Chroniques 7, verset 1 à 3.
Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison, et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les fils d'Israël, voyant descendre le feu, et la gloire de l'Éternel sur la maison, s'inclinèrent le visage en terre sur le pavement, et se prosternèrent, et célébrèrent l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours.
À ce moment-là, personne n'osait pénétrer dans ce sanctuaire, l'homme dans son état naturel ne pouvant supporter la gloire de Dieu. En même temps, la voix de Dieu revendiquait la gloire de son Fils bien-aimé, que les disciples voulaient mettre au même rang que Moïse et Élie. Tout glorieux que fussent ces éminents serviteurs, Dieu ne voulait pas que l'on confondît son Fils avec eux, pas plus qu'au baptême de Jean, lorsque Jésus prenait place au milieu des repentants. Chapitre 3, versets 21-22.
Et il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir ».
La voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Verset 36. Les ministères de Moïse et d'Élie, ayant été sans résultat parce qu'ils s'adressaient à l'homme en Adam, devaient être remplacés par celui de Christ. C'est pourquoi ces deux hommes, sur la montagne, s'entretenaient avec Jésus de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem, afin que Dieu pût donner libre cours à ses pensées de grâce envers l'homme. Aussi Moïse et Élie disparaissent, et Jésus demeure seul. Dès lors, c'est lui qu'il faut écouter, non que nous n'ayons pas à méditer les enseignements donnés par la loi et les prophètes. Au contraire, conduits par l'Esprit de Dieu, nous voyons que, dans tout l'Ancien Testament, le Fils de Dieu forme le sujet principal. C'est ce que Jésus fit comprendre aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Chapitre 24, verset 27. Chapitre 24, verset 44-45.
Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes fussent accomplies.
Mais il ne faut pas mettre les enseignements de la loi et des prophètes à la place de Jésus et de ses enseignements. L'épître aux Hébreux a été écrite précisément pour montrer aux chrétiens sortis du judaïsme combien la personne de Christ et son œuvre remplaçaient tout l'ordre de choses qui avait précédé, auquel ils ne devaient plus s'arrêter. Ainsi que la voix le proclame dans la nuée, c'est Jésus seul qu'il faut écouter. Ces enseignements suffisent jusqu'au moment glorieux où nous le verrons face à face, glorifiés, semblables à lui. En attendant, nous jouissons de la position qu'il nous a faite. Nous nous trouvons dans la même relation que lui-même et dans la même proximité de son Dieu et Père. Un démon que les disciples ne peuvent chasser, versets 37 à 43.
Lecture de la parole. Et il arriva le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, qu'une grande foule vint à sa rencontre. Et voici, un homme de la foule s'écria, disant, « Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. » Et voici, un esprit le saisit, et soudain il crie, et il le déchire en le faisant écumer. Et c'est à peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé. Et j'ai supplié tes disciples de les chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et encore, comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais Jésus tensa l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu.
Lecture de l'étude. Pendant que Jésus se trouvait sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, les autres disciples demeuraient en bas aux prises avec la puissance d'un démon qu'ils ne pouvaient chasser. Quand Jésus descendit, une grande foule vint à sa rencontre. Et voici, un homme de la foule s'écria, disant, « Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. » Et voici, un esprit le saisit, et soudain il crie, et il le déchire en le faisant écumer. Et c'est à peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » C'est 38 à 41. Incapables de profiter de la puissance dont Jésus les avait doués, les disciples participaient à l'incrédulité du peuple, ce qui produit chez le Seigneur une profonde indignation. Il ne suffit pas d'être avec Jésus, ni même de posséder des dons. Il faut la foi pour les utiliser. Le cas de ce démoniaque nous offre un tableau impressionnant de la puissance de Satan sur l'homme et nous montre que Dieu seul peut en délivrer sa créature. Cette puissance se trouvait là, en Jésus, dans une grâce parfaite, à la disposition de la foi. Aussi, le pauvre père entend ces paroles bénies, « Amène ici ton fils ». Tandis qu'il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais il dut abandonner sa victime sur la parole de Jésus, qui guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu. Aujourd'hui encore, nous pouvons amener à Jésus toutes nos difficultés. En le faisant avec foi, nous recevons les réponses que son amour veut nous accorder. Il n'y a pas de difficulté pour la foi, parce que la foi compte sur Dieu, pour lequel les difficultés n'existent pas. qui est le plus grand ? Versets 43 à 48.
Lecture de la parole. Et comme tous s'étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas cette parole, et elle leur était cachée, en sorte qu'ils ne la saisissaient pas. Et ils craignaient de l'interroger touchant cette parole. Et il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir, lequel d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, et le plaça auprès de lui, et il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. »
Lecture de l'étude. Et comme tous s'étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Versets 43-44. Les disciples ne comprirent pas cette parole et craignirent de l'interroger. Jésus venait de manifester une puissance remarquable en faveur d'un démoniaque. Aussi les disciples se confirmaient-ils dans la pensée que Jésus allait continuer son œuvre de délivrance qui aboutirait finalement à l'établissement de son royaume en gloire. Mais Jésus choisit précisément ce moment-là pour leur dire encore une fois que lui, le Messie, malgré toute sa puissance, allait mourir. Aussi ils n'y comprirent rien. Ils n'avaient pas fait attention au sujet de l'entretien de Jésus avec Moïse et Élie sur la montagne. Ils n'avaient retenu de cette scène que la gloire, et non le moyen pour y arriver. La mort était nécessaire pour mettre fin à l'état de péché dans lequel l'homme se trouve sous la puissance du diable, et pour le placer dans un état nouveau où Dieu puisse le bénir, en déployant tous les effets de son amour et de sa puissance. Mais ici, Jésus place tout particulièrement sa mort devant ses disciples. Il sera livré aux hommes, objet de leur haine. Il leur indique par cela qu'il n'avait rien à attendre de la part des hommes, puisqu'il marchait à sa suite dans le même chemin que lui. Au lieu d'interroger Jésus pour comprendre ses paroles, les disciples, toujours préoccupés d'eux-mêmes et de leur gloire, alors que Jésus leur parlait de sa mort, discutaient pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui, et il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Versets 47-48. Le monde, et par conséquent ce qui est grand dans le monde, est jugé par la mort de Christ à la croix, en sorte qu'à chercher la grandeur selon les pensées de la chair, on s'éloigne fortement de la pensée de Dieu. Ce qui est grand selon Dieu, ce qu'il était au moment où les disciples discutaient entre eux, c'est un Christ méprisé et rejeté. Son nom a de la valeur, car le nom est l'expression de la personne qui le porte. Les simples recevaient Jésus. Il fallait devenir comme un petit enfant pour cela. Le petit enfant n'a pas de prétention dans ce monde. Il n'y tient pas de place. En recevant un de ses petits au nom de Jésus, on le recevait. Et en recevant Jésus, on recevait Dieu qui l'avait envoyé. Cette petitesse qui permettait de recevoir Jésus constituer la véritable grandeur. Quelqu'un qui chassait les démons, versets 49-50.
Lecture de la parole. Et Jean répondant dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne le lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. »
Lecture de l'étude. En entendant parler de la valeur qui se rattachait au nom de Jésus, Jean pense à quelqu'un qui chassait les démons en ce nom. Voyant cela, les disciples lui avaient défendu de le faire parce qu'il ne suivait pas Jésus avec eux. Pour que les actes de cet homme eussent du crédit pour les disciples, il aurait dû être avec eux. En apparence, il tenait à l'honneur de leur maître, mais en réalité, leur amour-propre gouvernait leurs pensées. Jésus leur dit, « Ne le lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Verset 50. La haine des hommes envers Jésus avait atteint un degré tel qu'il n'y avait pas de milieu. Si quelqu'un osait se déclarer pour Christ, il tenait pour les disciples qui le suivaient. Il était donc un des leurs. Ce que Christ est pour le cœur donne de la valeur à un croyant. Mais si le Seigneur a du prix pour un racheté, il le suivra avec ceux qui sont dans le même cas, non pour ceux qui le suivaient déjà, mais par amour pour Christ. Puissions-nous, dans ces jours mauvais, suivre le Seigneur par attachement à sa personne et à sa parole, et ne pas craindre de montrer que nous sommes pour lui, alors que le monde le renie de plus en plus, et cela sans négliger de le suivre avec ceux qui lui sont fidèles. En chemin pour Jérusalem, versets 51 à 56.
Lecture de la parole. Or il arriva, comme les jours de son assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant sa face des messagers, et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Et ils ne le reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie ?» Et se tournant, il les censura fortement et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et ils s'en allèrent à un autre village.
Lecture de l'étude. Dès maintenant, Jésus accomplit son dernier voyage vers Jérusalem, où il devait être mis à mort. Conscient de ce qui l'attendait dans la ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés, chapitre 13, verset 34, il dresse résolument sa face. En Ésaïe 50, verset 7, il est dit de lui, « Mais le Seigneur l'Éternel m'aidera, c'est pourquoi je ne serai pas confondu, c'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou, et je sais que je ne serai pas confus. » Il fallait toute la puissance de l'amour dans l'obéissance à son Dieu et Père pour le faire avancer vers la mort ignominieuse de la croix avec une pleine connaissance de ce qu'il attendait. Si Jésus marchait comme victime vers Jérusalem, il avait néanmoins conscience qu'il était le roi qui aurait dû être reçu. En cette qualité, il envoie devant lui des messagers pour lui préparer un logis. Ils arrivèrent à un village de Samaritains, mais ils ne le reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem, verset 53. Comme les Juifs, et par haine pour eux, les Samaritains le repoussent et lui témoignent leur mépris que son cœur éprouvait dans toute la sensibilité de son amour parfait. Rien n'a été épargné à Jésus ici-bas. Il a ressenti, dans ses affections les plus pures, la haine sous les formes les plus diverses. Mais ces manifestations de l'homme, ennemi de Dieu, ont fait ressortir d'autant mieux les perfections du cœur de l'homme parfait, expression de l'amour de Dieu. Jacques et Jean, indignés du refus des Samaritains, proposent à Jésus de faire descendre sur eux le feu du ciel, comme jadis Élie dans la même contrée, alors qu'Acasia envoyait cinquantaine après cinquantaine pour s'emparer du prophète, Deux Rois chapitre 1er. Élie exerçait les jugements de Dieu en contraste avec son successeur Élisée, dont le ministère était caractérisé par la grâce. Les disciples entraient plus facilement dans les pensées de jugement que dans celles de la grâce, personnifiées dans leur maître, vrai Élisée au milieu de son peuple. Jésus leur dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » La grâce conduisait Jésus à Jérusalem pour qu'il portât le jugement à la place des coupables. Aussi comprend-on qu'il n'exerça pas de jugement sur son chemin, ce qu'il n'a du reste jamais fait durant son ministère. Il était venu sauver et non juger. Ils allèrent donc dans un autre village, selon les instructions données par Jésus à ses disciples. Aujourd'hui aussi, l'Esprit de grâce doit animer les disciples du Seigneur, car le temps de sa patience dure encore. Nous sommes témoins de beaucoup de mal qui appellent les jugements de Dieu sur les hommes. Mais Dieu prend patience et prolonge le jour de grâce. C'est ce que nous devons faire aussi, non pas pour montrer de l'indifférence à l'égard de ce qui est mal, mais pour manifester envers tous la grâce dont nous sommes nous-mêmes les objets, et pour inviter les hommes à la repentance afin qu'ils soient sauvés, d'autant plus que nous savons que le temps de la grâce touche à son terme. À la suite de Jésus, versets 57 à 62.
Lecture de la parole. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Et un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière est propre pour le royaume de Dieu. »
Lecture de l'étude. Comme Jésus cheminait avec ses disciples, un homme désireux de le suivre s'approcha et lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Versets 57-58. On ne peut suivre Jésus que selon le principe de renoncement qui l'a caractérisé. Il a tout quitté pour venir dans ce monde, si misérable et souillé qu'il n'y trouva pas un lieu de repos, et où, par conséquent, il était étranger. La chair, la volonté propre, ne rencontre aucune satisfaction dans ce chemin, qui conduit hors de ce que désire le cœur de l'homme. S'il aboutit à la gloire où Christ est entré en le suivant, pour le moment ce chemin sort du monde au milieu duquel il faut vivre en étranger et y être traité comme Jésus l'a été. Jésus dit à un autre homme, « Suis-moi. » Aussitôt celui-là présente des objections en disant à Jésus, « Permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Versets 59-60. Pour suivre Jésus, il ne faut pas avoir le cœur absorbé par les intérêts de la terre. Cet homme voulait bien aller, mais quelque chose se présentait à lui en premier lieu. Devoir très légitime qui appartient à l'honneur que Dieu recommande aux enfants vis-à-vis de leurs parents. Cependant, les droits de Jésus passent avant ceux de la nature. Puis le monde gît dans un tel état de mort pour Dieu que la séparation doit être absolue si l'on veut travailler à l'œuvre du Seigneur, œuvre qui, d'une manière ou d'une autre, incombe à tout croyant. Un autre homme offre à Jésus de le suivre. Celui-là a aussi quelque chose à faire premièrement. Il veut prendre congé de ceux qui sont dans sa maison. Désir bien légitime aussi, mais qui avait le tort de prendre la première place dans le cœur et exposer cet homme à être retenu par les siens. Il pouvait considérer les attraits de la famille, ce qui le détournerait de l'accomplissement de son désir. Aussi Jésus lui répondit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Verset 62. Ceux qui labourent la terre connaissent la justesse de l'exemple donné par le Seigneur, car il est impossible de conduire une charrue droite au bout du champ qu'on laboure si l'on regarde en arrière. Aussi, tout ce qui retient le cœur nous empêche soit d'accomplir le service que le Seigneur place devant chacun de nous, soit d'arriver au but. Nous trouvons cet enseignement dans plusieurs passages de la parole. Oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, Philippiens 3, verset 14. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé, de Timothée 2, verset 4. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, versets 1 et 2. En toute chose, Jésus est le modèle parfait de ce qu'il enseigne. Il a poursuivi son chemin sans jamais regarder en arrière. Il dressait résolument sa face pour aller à Jérusalem. À cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et il est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Puissions-nous avoir toujours Jésus comme modèle dans le chemin. Abandonnons tout ce qui appartient à un monde ruiné par le péché, car les jugements vont tomber sur tout ce dont nous avons à nous séparer maintenant. Et ne laissons pas non plus les choses les plus légitimes nous priver du prix qu'il y a à servir le Seigneur et à chercher premièrement à lui obéir lorsqu'il nous dit « Suis-moi », car il a tous les droits sur chacun de ses rachetés.